أو ما تقوليش خايف وخايف وهي كبار ريان عيابر عاد لك تنفى.
C'était la magnifique voix de Ouria Aïchi, qui est une femme algérienne, mais qui nous chante des chants de sa région, à savoir l'Aurès. Et nous partons maintenant, toujours en musique, pour découvrir la situation de ces femmes, épouses et mères, puisque tel est le nom du chapitre tiré du livre « La religion par les femmes » de Nancy R. Folk et Rita M. Gross. Donc, des épouses et des mères, à la découverte de ces femmes qui vivent un certain quotidien. Les femmes qui sont étudiées dans ce chapitre-là ont en fait les travaux de la vie quotidienne pour soucis prioritaires, au contraire de ces femmes à la vocation un peu exceptionnelle telles que nous les avions déjà lues, qu'elles soient femmes gourous ou bien même particulièrement engagées dans la religion chrétienne, comme nous avions vu il y a un mois le cas de Dorothy Day. Eh bien, dans ce chapitre-là, écrit donc dans le livre de Nancy R. Folk et Rita McGross, nous allons découvrir des exemples présentés où il y a très peu de tension entre la vie religieuse et la vie de chaque jour. Mieux, les préoccupations religieuses viennent souvent donner valeur et sens aux soucis quotidiens. Dans le dernier de ces cas étudiés, on voit que la religion même aide les femmes à supporter les frustrations du quotidien. Et si l'on faisait peut-être une statistique, on remarquerait sûrement que c'est là le modèle le plus courant de la vie religieuse des femmes. Un des aspects les moins connus de la vie religieuse quotidienne des femmes est constitué par tous les rites et cérémonies qu'elles célèbrent pour leur propre compte. Mais ces rituels font tout autant partie du domaine religieux que les rites et les rassemblements d'hommes auxquels on donne beaucoup plus, bien sûr, de publicité. Les femmes vont souvent les organiser, les préparer et les célébrer avec peu ou pas de participation masculine. Et les auteurs du livre « La religion par les femmes » jugent important de passer ces pratiques en revue parce qu'elles sont le reflet de l'expérience et des préoccupations les plus courantes des femmes, davantage peut-être que tout autre aspect de la vie religieuse, de leur vie religieuse. Pratiquement chaque femme des cultures les plus traditionnelles serait capable de trouver les descriptions dans les descriptions de ce chapitre qui a pour titre, je vous le disais, des épouses et des mères, un parallèle ou l'autre à des éléments significatifs de leur propre univers religieux. Alors, ce chapitre des épouses et des mères nous propose 6 exemples tirés de 4 cultures différentes. 3 exemples, par exemple, viennent des traditions des rites et des femmes des femmes de l'Inde et des différentes régions de l'Inde. Il montre, par exemple, combien le monde religieux ordinaire des femmes peut être fécond, même dans une culture comme celle de l'Inde, où les hommes ont le contrôle presque exclusivement de la plupart des rites, cérémonies et institutions religieuses publiques. La naissance d'un enfant, par exemple, est un événement religieux important pour les femmes du centre de l'Inde, comme pour celles d'autres parties du monde. Et un autre exemple nous fait prendre part à cet événement. 2 autres exemples décrivent les nombreux rituels entrepris par les épouses et les mères d'un village du nord de l'Inde pour assurer la protection de leur famille, les intérêts de leur foyer, ainsi que le cérémonial auquel les femmes d'âge moyen d'un village proche de la côte orientale de l'Inde se soumettent, célébrant joyeusement le dieu Krishna pendant un mois entier, dans le but, je vous le donne en mille, de protéger leur mari. La mort est pour beaucoup de cultures, autant que la naissance, un domaine réservé aux femmes. Un autre exemple nous fait faire la moitié du tour de la Terre pour assister en Amérique centrale aux rites traditionnels du deuil, tels que les organisent et les célèbrent un autre groupe de femmes, plus âgées cette fois. Et finalement, 2 derniers exemples abordent des pratiques reliées au culte des saints en pays musulmans, le premier en Iran, le deuxième au Maroc. Selon une habitude populaire dans l'Iran pré-révolutionnaire, les femmes de tout âge pouvaient s'adresser et adresser des requêtes aux saints de l'islam. Ces demandes concernaient leurs multiples problèmes quotidiens. Les femmes accompagnaient leur culte du vœu d'offrir un repas rituel à leurs amis si elles étaient exaucées. Bien qu'on les ait parfois critiquées, ces vœux et ces festivités jouaient un rôle important pour les femmes sur le plan social et religieux. Au Maroc également, les saints ont une grande place dans la vie religieuse féminine, même si ni eux ni leur sanctuaire ne font en fait partie de l'islam officiel. C'est que la tombe des saints sert de lieu de refuge et de consolation pour les femmes accablées par les exigences et les tensions du rôle qu'elles doivent assumer dans la famille. Et c'est de ce dernier exemple que nous allons parler tout de suite et que je vous propose de découvrir. Ce matin, j'allais voir ma mère, je mangeais un morceau avec elle et les enfants, puis je m'en fus passer la journée au marabout, à son sanctuaire. Je m'étendis par terre et dormis un très long moment. Vous rendez-vous souvent au marabout ? Oui, très souvent. Je préfère à vrai dire y aller le jour de Aïd, fête religieuse. Lorsqu'on a une famille aussi désespérante que la mienne, le sanctuaire est un havre de paix et de tranquillité. J'aime m'y rendre. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce sanctuaire ? Pouvez-vous le dire plus précisément ? Oui, le silence, les tapis et les nattes propres si joliment disposées. Le murmure de la fontaine dans le silence. Un silence énorme dans lequel le bruit de l'eau est fragile comme un fil. J'y reste des heures, parfois des jours entiers. Le jour de Harid doit être plein de, ça doit être plein de gens. Oui, il y a du monde. Mais chacun est perdu dans ses pensées. On vous laisse tranquille. C'est en majorité des femmes qui pleurent sans rien dire, chacune dans son univers à elle. Ne vient-il pas d'hommes au sanctuaire ? Oui, mais les hommes et les femmes ont chacun un côté réservé. Les hommes viennent voir le sanctuaire et le quittent très rapidement. Les femmes restent plus longtemps, surtout celles qui ont des problèmes. Que font-elles et que disent-elles ? Cela dépend. Certaines se contentent de pleurer. D'autres s'agrippent aux vêtements du saint et disent « Donnez-moi ceci, ô saint, donnez-moi cela, ou je désire que ma fille passe ses examens. » Vous savez, les saints sont des hommes et des êtres humains. Mais parfois, rendez-vous compte, la femme obtient ce qu'elle a demandé. Alors, elle apporte un sacrifice, elle tue un animal, prépare un plat de viande et l'offre aux visiteurs. Connaissez-vous Sidel Gomri ? Non. Salé est plein de sanctuaires, tout plein. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Si vous voulez faire un pèlerinage, il suffit de faire le tour de la ville de Salé à pieds nus. » On le dit vraiment. Toute la ville de Salé est un sanctuaire. Il y en a tant que certains n'ont même pas de nom. Mon père est né à Salé. Il connaît les sanctuaires et raconte des tas de choses à leur sujet. Lorsque vous êtes séparé de quelqu'un ou que vous avez un gros différend, les saints vous aident à résoudre le problème. Quand j'y vais, j'écoute ce que disent les femmes. Elles disent n'importe quoi au tombeau et elles miment tout ce qui s'est passé. Puis elles demandent à Sidel Gomri de les aider et à se tirer d'affaires. Elles pleurent, elles crient, après quoi elles se reprennent, reviennent vers nous et s'assoient en silence. J'aime le sanctuaire. Vous arrive-t-il d'avoir peur ? Peur de quoi ? Dans un sanctuaire. J'aime les sanctuaires. À quel moment vous y rendez-vous ? Ils ferment le soir, sauf ceux qui ont des chambres, comme Sidi Ben Achir par exemple. On peut y louer une chambre et y rester assez longtemps. Combien coûte la chambre ? Ouf, 15 dirhams. 15 dirhams, c'est à peu près un franc. Oh, 15 dirhams ? 15 dirhams la nuit ? Non, pour 10 dirhams, on peut rester aussi longtemps que veut, même un mois. Vous savez, on dit que Sidi Ben Achir est un docteur. Les malades viennent avec leur famille, louent une chambre et y séjournent jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Vous savez, ce n'est pas Sidi Ben Achir qui les guérit. C'est Dieu. Et mais il croit que c'est Sidi Ben Achir. Est-ce que n'importe qui peut louer une chambre ? Plus maintenant. Il vous faut l'autorisation des mohaddem, les fonctionnaires du lieu. Ils veulent savoir d'où vous venez et s'assurer que vous êtes vraiment malade. Il est arrivé qu'une femme loue une chambre en prétendant qu'elle accompagnait un malade. Mais c'était son amant. Depuis cette histoire, c'est devenu plus difficile d'avoir une chambre. Y a-t-il des jeunes de votre âge en sanctuaire ? Oui. Mais ils ne viennent pas pour le sanctuaire, ils viennent seulement pour le coup d'œil. Il en arrive beaucoup des environs, pour pique-niquer au printemps et en été. Il faut voir le sanctuaire alors. Les Hondas, les moteurs qui rugissent, les garçons bien habillés, les filles en mini-jupe, maquillées, bronzées. C'est splendide, c'est reposant. Le silence à l'intérieur et la vie à l'extérieur. Ça fourmille de jeunes. Vous savez, on a même construit un toboggan sur le mur qui va jusqu'à la plage. Je vous le montrerai quand nous y passerons. Ce sera plus rapide. Vous sautez du rempart, glissez en bas du toboggan et vous voilà à la plage. Vous savez, il y a des gens qui viennent au sanctuaire en été pour leurs vacances, au lieu d'aller à l'hôtel payer 10 ou 15 dirhams par jour. Au sanctuaire, une famille entière s'en sort pour 15 à 20 dirhams par semaine ou par mois. Ce sont surtout des gens qui ne vivent pas dans la ville et viennent de loin, du nord, du sud, de tous les coins du Maroc. Pour eux, comme lieu de vacances, le sanctuaire est idéal. Les plus âgés peuvent prier et les jeunes aller à la plage. En été, je rencontre des gens de tout le Maroc. C'est comme si j'étais à la Mecque, sauf que je suis à Salé. Il faut aller voir ça. Nous pouvons nous y rendre en été si vous voulez. C'est plus agréable. Vous n'êtes pas obligé de prier. Vous pouvez y aller juste pour regarder. Je vous l'ai dit, quand je vais au sanctuaire, ce n'est pas pour prier. Je ne demande jamais rien. Lorsque j'ai besoin de quelque chose, je m'adresse directement à Dieu, mais pas au saint. C'est un être humain comme moi. « Voilà un extrait d'un entretien que Fatima Mermissi a eu avec une jeune fille de 20 ans qui travaille dans un quartier très moderne et luxueux de la ville de Salé au Maroc, mais qui vit dans ce qu'on appelle le bidonville. Alors, qui est Fatima Mermissi? Peut-être vous la connaissez déjà. Elle était précédemment professeure de sociologie à l'université Mohamed V de Rabat au Maroc et elle travaille actuellement comme chargée de recherche à l'Institut universitaire de recherche scientifique du Maroc. Parmi ses nombreux écrits sur les femmes musulmanes, et c'est comme ça qu'on la connaît bien, il y a un livre fameux qui s'appelle « Au-delà du voile », si je traduis parce que c'était en anglais, le titre est en anglais, « Au-delà du voile, des dynamiques entre hommes et femmes dans la société musulmane moderne », ou bien autre livre, « Le Maroc raconté par ses femmes ». Fatima Mernissi a aussi étudié et donné de nombreux cours aux États-Unis. Dans le début de cette contribution au livre de Nancy Hoffolk et Rita M. Grass, qui a pour titre « Femmes, saints et sanctuaires au Maroc », qui est un article qu'elle a écrit d'abord en 1977 et qui a été réédité et réactualisé en 1987, eh bien, Fatima Mernissi a collaboré avec une historienne pour ce qui est des données historiques sur les saints, principalement des femmes, et collaboré avec une historienne marocaine qui s'appelle Halima Ferhat, qui est maître de conférences à l'université Mohamed V à Rabat. Alors, je vous lis quelques extraits de cet article qui nous explique pourquoi ces sanctuaires sont quelque part des lieux thérapeutiques pour les femmes. Alors, d'un bout à l'autre du Maghreb, on rencontre des sanctuaires similaires à celui que cette jeune femme a décrit dans son interview avec Fatima Mernissi. Qu'ils ressemblent à une humble pyramide de cailloux ou même à des palaces, ils ont tous un point commun, la présence du saint les habite, soit qu'il y est enterré, soit qu'il y a vécu, soit qu'un événement qui le concernait s'y est passé. Le sanctuaire témoigne de la présence bienvenue du saint dans la communauté, mais en tant qu'institution dans une société en plein développement, il est aussi le reflet de ses contradictions économiques et idéologiques. Pour la femme, l'expérience vécue au sanctuaire est en contraste frappant avec sa position subordonnée dans une société bureaucratique et patriarcale où les postes de décision sont aux mains des hommes. Dans les bureaux et les hôpitaux, les femmes occupent la position classique de la personne privée de pouvoir, condamnée à obéir, réceptacle de décisions impersonnelles, exécutant les ordres donnés par les mâles. Dans un hôpital, le docteur est l'expert, le représentant de l'ordre bureaucratique, doté par la loi écrite de l'autorité d'ordonner à la femme ce qu'elle doit faire. Celle-ci, ignorante, ne peut que s'exécuter. Au cours de la consultation à l'hôpital, elle exprime son malaise dans un arabe populaire, maladroit, et réalise devant l'impatience et l'irritation du docteur qu'elle ne parvient pas à lui fournir l'information technique précise qu'il demande. Bien plus, l'hôpital est une structure étrange pour elle, où elle se sent étrangère, un bâtiment moderne, plein de panneaux énigmatiques accrochés aux portes et dans les corridors, avec des fonctionnaires habillés de blanc, propres, arrogants, qui parlent souvent français pour les communications importantes, et ne se servent de l'arabe que pour donner des ordres élémentaires, du genre « venez ici, allez là-bas, enlevez vos habits », etc. En comparaison de l'entrée des hôpitaux et des bureaux surveillés par des gardes, la tombe du saint est directement accessible aux personnes en difficulté. En posant la main sur le manteau symbolique du saint ou sur un autre objet comme une pierre ou un arbre, la femme décrit ce dont elle souffre. Et c'est elle qui fait le diagnostic, qui suggère là ou les solutions qui lui conviendraient et explique au saint ses préférences. Les saints ne savent pas le français. Et souvent même pas l'arabe classique. Les langues du monde surnaturel sont les parlés dialectaux, berbères ou arabes, populaires en tout cas, les seuls que la femme maîtrise. Le devoir du saint est de l'aider à atteindre son but. Elle ne lui offrira un cadeau ou un sacrifice que s'il réalise son vœu, pas avant. Avec le docteur, la femme doit d'abord acheter le remède et elle n'a aucun moyen de se rembourser si la médecine ne fait pas l'effet attendu. Il ne faut donc pas s'étonner si, malgré des services de santé tout à fait modernes, les femmes continuent à se rendre en masse au sanctuaire avant, pendant ou après le recours à l'hôpital. Les saints leur apportent l'aide vitale que les services de santé publique modernes ne peuvent pas leur offrir. Ils incarnent le refus de l'attitude arrogante des experts, de la soumission aveugle à l'autorité, du traitement réservé aux subordonnés. et cette persistance de la visite au tombeau des saints manifestent clairement la traditionnelle revendication de la femme nord-africaine. Elle est quelqu'un d'actif. Elle est capable de décider de quoi elle a besoin et de prendre soin d'elle-même. Et ce droit, le système patriarcal musulman le lui dénie. Les visites au tombeau des saints et au sanctuaire et les transactions qui s'y déroulent sont deux des rares possibilités laissées aux femmes pour être, pour donner à leur monde et à leur existence la forme qu'elles souhaitent. Cet essai d'autodétermination, si l'on peut dire, prend l'allure d'une entreprise collective quasi exclusivement féminine. Les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes dans les sanctuaires. Elles parlent à haute voix et font du bruit comme si elles étaient les propriétaires du lieu indiscutablement, de façon indiscutable. Les hommes, quand bien même ils sont tolérés à l'intérieur, sont souvent réduits à écourter leurs visites, tant leur pèsent les regards inquisiteurs des visiteuses omniprésentes. Les femmes se regroupent au lieu supposé du tombeau du saint pour se sentir directement en contact avec une source sacrée de puissance qui reflète leur propre énergie. Dans la détresse et dans la souffrance, ces femmes sont liées par un facteur très fort, leur volonté de trouver une solution, un meilleur équilibre avec leur entourage, avec leur destinée, avec le système qui joue contre elles. Elles savent qu'elles sont flouées par le système. Leur désir de trouver une réponse à des questions brûlantes est un désir de recouvrer les droits qui sont les leurs. Le fait que d'autres femmes soient dans une situation exactement pareille crée entre elles un réseau thérapeutique de communication. Lorsqu'une femme pénètre dans le sanctuaire, elle va directement au tombeau en passant par-dessus les jambes étendues des femmes assises, par-dessus les femmes des corps des femmes qui dorment. Celles qui ont déjà dépassé la phase des pleurs et des cris sont alors souvent en position fœtale, la tête par terre. La dernière arrivée posera les mains sur le tombeau ou sur le drap qui le recouvre et exposera son problème à haute voix ou en silence. Elle fera éventuellement un discours très détaillé sur son fils qui a échoué aux examens ou qui lui a été enlevé par une jeune épouse. Si elle veut évoquer une dispute avec son mari, souvent elle mimera ce qui s'est passé, nommera les acteurs du drame, expliquera leurs gestes et leurs attitudes. Après avoir exprimé ses désirs, elle viendra s'asseoir parmi les autres femmes. Celles-ci l'entoureront, lui demanderont plus de précisions et partageront avec elle la seule connaissance qu'elle possède, leur expérience de la souffrance. Sur le coup de l'exaspération due à la situation dont elle est victime et avec les encouragements de toute cette communauté féminine, la femme finira par tomber sur le sol, hurler, se tordre par terre avec violence. Des femmes se précipiteront vers elle pour la tenir, la serrer dans leurs bras, la calmer en lui parlant de leur propre cas et de leurs propres problèmes. Elles lui masseront le front, la rafraîchiront avec un verre d'eau et remettront en place son fichu et son écharpe. Elle se reprendra rapidement, retrouvera son état normal et laissera la place à la suivante. L'effet thérapeutique est indéniable. Le sanctuaire stimule l'énergie des femmes contre l'objet de leur insatisfaction et leur permet de prendre un bain communautaire intrinsèquement féminin de consolation, de soutien et de conseil. L'institution des saints telle qu'elle se manifeste dans les sanctuaires au Maroc contient une composante, on pourrait dire, anti-orthodoxe, anti-establishment, qui semble évidente, qui a fait l'objet d'une littérature prolifique. Mais les études sur la relation femme-saint ont donné trop d'importance au côté magique. Les chercheurs occidentaux qui s'y sont intéressés ont été fascinés par la composante paralogique de la structure de personnalité marocaine et par le poids de structures de pensée magique dans une économie marocaine encore essentiellement agricole. Mais en fait, ils ont été peu attentifs à ce que Fatima Mernissi appelle l'aspect phénoménologique de la question, c'est-à-dire à ce que les adeptes elles-mêmes retirent de leur relation avec le saint et le sanctuaire. Les femmes surtout, qui sont toujours celles qu'on garde dans l'ignorance, juste entre parenthèses, 97% des femmes dans le Maroc rural sont encore illettrées. Eh bien, les femmes surtout sont décrites comme des créatures à l'esprit simple, superstitieuses, incapables de pensée intelligente et enclines à verser dans le mysticisme ésotérique. Cette opinion a encore gagné du terrain avec les débuts du développement et l'industrialisation naissante des économies du tiers-monde. Et si l'on accorde aux femmes des sociétés industrialisées une certaine capacité de pensée rationnelle, eh bien les femmes du tiers-monde sont encore perçues comme des esprits captifs de la pensée magique, malgré le fait que leur société soit en train de glisser dans une modernité envoûtée par sa propre rationalité, sa technologie ou sa domination sur l'environnement. Alors, bien loin d'être un acte magique, la visite au tombeau d'un saint, la relation durable avec une créature surnaturelle peuvent être une manière authentique de chercher à se faire une place dans le monde bien réel physique. La relation avec le saint peut être vue comme un effort de vivre pleinement la réalité. Le sacré, c'est le réel par excellence. Et à la fois puissance, efficience, source de vie et fécondité. Le désir de l'homme religieux de vivre dans le sacré équivaut en fait à son désir de se situer dans la réalité objective, de ne pas se laisser paralyser par la réalité sans fin des expériences purement subjectives, de vivre dans un monde réel, efficient et non pas dans une illusion. Au fond, ce que les femmes cherchent à travers la médiation du saint, dans une société qui est résolument patriarcale, c'est une plus grande part de pouvoir, de capacité de décision. Un des domaines sur lesquels elles veulent obtenir une maîtrise presque totale, c'est celui de la reproduction et de la sexualité, point central de la définition du rôle des femmes dans n'importe quel système patriarcal s'il en est. L'islam orthodoxe, classique, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, n'échappe pas à cela. Les femmes qui désespèrent de trouver un mari, celles dont le mari a des problèmes sexuels, celles qui ont perdu l'amour de leur mari ou leur propre capacité d'avoir des enfants, eh bien elles vont voir vers le saint et chercher de l'aide et trouver des solutions. L'une des fonctions importantes du sanctuaire consiste précisément à traiter de sexualité et de fertilité. Si le pouvoir se définit comme la possibilité qu'ont une ou plusieurs personnes de réaliser ce qu'elles veulent par une action commune, même en dépit de la résistance d'autres personnes qui participent à l'action, on peut en déduire que la collaboration des femmes et des saints est clairement un acte de recherche du pouvoir. Exclues de la religion ritualiste orthodoxe musulmane, les femmes qui tournent en procession autour des tombeaux des saints expriment leur quête du pouvoir entre les vastes horizons de l'espace sacré que l'autorité humaine et ses hiérarchies n'ont pas encore foulé ni souillé. Des jeunes filles pâles jettent dans la source des fleurs rouges, d'autres du sucre, du miel, pour que la parole devienne douce.